allons reprendre, si vous voulez bien, sans trop tarder. Alors d'abord, un mot sur l'organisation de ce séminaire. Nous avons encore une séance la semaine prochaine. Il n'y a pas d'invités, mais 4 ou 5 des invités de la série reviendront. Et nous aurons donc un échange. Je crois que nous serons 5. Nous discuterons, évidemment, ils n'ont pas beaucoup assisté les uns les autres à leurs propos, mais j'essaierai de les faire parler entre eux. Alors aujourd'hui, notre dernier invité est Claude Lanzmann, et je ne vais pas le présenter. Je voudrais simplement dire que lorsque j'ai pensé à l'invité pour conclure ce séminaire qui portait sur le témoignage, je pensais avant tout au film Shoah. Mais depuis, vous avez publié un livre de mémoire tout récemment, et donc voilà encore un autre titre pour être présent parmi nous. Je ne le savais pas, et il se fait qu'on ne peut pas ouvrir la radio, un journal ces jours-ci, sans être averti de la publication de ce volume que j'ai commencé à lire.
Ah, vous l'avez acheté.
Mais oui.
Bravo.
Oui. Et vous avez donc beaucoup de titres à être ici aujourd'hui. Et j'ai demandé à Éric Marty, que vous connaissez bien et qui est un vieil ami, qui est professeur à Paris 7, qui a écrit sur Gide, qui a écrit sur Roland Barthes et qui a aussi beaucoup de titres donc à figurer au programme d'une réflexion sur l'écriture de vie. J'ai demandé à Éric Marty de venir avec vous pour mener une sorte de dialogue, et donc cette séance se passera sous cette forme d'échange entre vous deux, et éventuellement j'interviendrai moi aussi. Donc merci encore à tous les deux d'être venus, et je vous donne tout de suite la parole.
Merci Antoine. Je voudrais remercier d'abord Claude Lanzmann d'avoir accepté de dialoguer avec moi autour de la question du témoin qui est au centre du séminaire d'Antoine Compagnon. Shoah, qui est une œuvre d'une importance capitale, et de part en part traversée, portée par cette question: qu'est-ce qu'un témoin, qu'est-ce que témoigner, ce que signifie témoigner. Mais Claude Lanzmann, comme Antoine Compagnon l'a rappelé, vient aussi de publier donc un livre qui a pour titre « Le lièvre de Patagonie », sous-titré « Mémoire ». Et précisément, ce livre d'une grande beauté et d'une grande importance, bien sûr, parle aussi de Shoah. C'est pourquoi dans ce dialogue, j'aimerais bien qu'on aille de Shoah au lièvre de Patagonie, qu'on fasse une sorte d'aller-retour entre le livre et le film, autour justement de la manière dont Claude Lanzmann pense, invente, produit, construit, configure l'acte de témoigner. La question du témoin et du témoignage est au centre de de l'actualité intellectuelle depuis une dizaine d'années, qu'on pense aux travaux de Paul Ricoeur, de Derrida. Question prise sous l'angle de la philosophie, du droit, du discours, du langage, de l'histoire. Il me semble que certains de ces travaux ont souvent été pris par une ambition normative, notamment du fait de la tentation propre à l'influence des sciences humaines, à trouver des modèles linguistiques, des modèles juridiques au témoignage, modèles régulateurs permettant au témoignage de s'inscrire comme archive, permettant l'enregistrement du témoignage. Ou encore, chez certains historiens, le désir ontologique les a menés à un certain rapport quantitatif au témoignage, à juxtaposer des témoignages sans rapport les uns avec les autres. Je pense notamment à Todorov qui, dans Face à l'extrême, enfile à la suite des énoncés testimoniaux, entre guillemets, Primo Levi, Evgenia Ginzburg, Elie Wiesel ou Shoah, réduction donc du témoignage à de simples énoncés. Il me semble que Shoah, le film, ouvre le témoignage à de toutes autres questions, et plutôt que justement ramener le témoignage à de la norme juridique, historique, langagière, à une série d'énoncés, l'ouvre et nous ouvre à de l'incommensurable, jusqu'à peut-être nous amener, sinon à l'impossibilité du témoignage, comme le propose Shoshana Fellman, du moins à l'extrême limite où l'acte de témoigner porte celui qui témoigne et celui qui écoute. Il me semble que cette limite extrême, loin de nous mener vers l'obscurité ou vers l'indicible, permet au contraire de déployer, dans le sens le plus lumineux, le mot témoin. Je voudrais finir ce petit préambule en citant une phrase de Claude Lanzmann dans le livre de Patagonie qui me semble essentielle et qui définit pour moi vraiment la puissance de Shoah. Il écrit à la page 523 « Parce que Shoah ne transige jamais avec la vérité, il est, en un sens, la transgression même. » Phrase très importante parce que pour moi, la violence, la beauté, la sidération même des images de Shoah, en effet, peut être définie par le mot transgression, mais évidemment en un sens. Et ça sera peut-être ce mot de transgression qu'on essaiera de faire aller avec le mot témoin. Si en effet Shoah est l'œuvre du témoignage, et si le témoignage est transgression, alors effectivement, il me semble que le vrai témoignage, celui qui dit l'essentiel, ne peut que transgresser quelque chose. Il y aurait de très nombreux extraits de Shoah donnés en point de départ de ce dialogue. J'ai proposé à Claude Lanzmann deux extraits de Shoah qui se suivent, qui sont un épisode narratif, en quelque sorte, ces deux témoignages, c'est celui de Philippe Müller, d'une part, qui est un membre des commandos spéciaux d'Auschwitz, qui était chargé donc de ramasser les cadavres des chambres à gaz et les brûler dans les fours crématoires, et puis d'un autre juif tchèque qui s'appelle Rudolf Verbra, qui lui était aussi à Auschwitz et qui était responsable de la résistance juive d'Auschwitz. Ces deux témoignages sont liés au même épisode, l'arrivée d'un groupe de juifs tchèques qui sont d'abord mis en quarantaine et qui laissent penser à Rudolf Verbra qu'une révolte sera possible parce qu'ils ne sont pas liquidés tout de suite. C'est la mort de ces juifs sera pour Philippe Müller l'occasion justement de témoigner et on va voir dans ces deux séquences comment le mot témoignage se déploie de manière très différente pour chacun des deux protagonistes, Philippe Müller et Rudolf Verbra. On peut donc maintenant voir les deux séquences, chapitres 5 et 6 de la seconde période de Shoah.
On gêne personne, là.
Diese Nacht war ich im Krematorium 2. Kaum sind die Menschen von den Lastwagen ausgestiegen, waren sie beleuchtet mit Reflektoren und mussten durch einen Korridor bis zu den Stiegen, die münden in den Auskleideraum, bis zu die Treppen, da beleuchtet durch, also müssen die laufen. Sie waren geschlagen. Wer nicht laufen könnte in Laufschritt, war also bis zum Tode geschlagen. Also von der SS. Also es war ein außergewöhnlicher Gewalt auf diese Menschen aufgesetzt. Jetzt plötzlich,
ohne Worte, ohne Erklärung,
ohne jeden, den plötzlich sind sie ausgestiegen aus dem Lastwagen und da haute zu die SS auf diesen Menschen. Als sie sich befanden in den Auskleideraum, war ich wieder in den hinteren Tür des Auskleideraums, stand ich hinter der hinteren Tür und konnte die schreckliche Szenerie zuschauen. Die Menschen waren verblutet. Sie wussten jetzt, wo sie sich befanden. Sie guckten sich an, die Säulen des sogenannten, wie ich schon vorher gesagt habe, internationalen Informationszentrum, der ihnen so viel Schrecken, der hat sie nicht beruhigt. Im Gegenteil, der hat diesen Menschen einen Schrecken eingebracht, weil sie nämlich schon vorher gewusst haben, gehört haben, diese Menschen in den Lager B2B, was da geschah. Sie waren verzweifelt, Kinder unarmen sich, Mütter, Eltern, ältere Menschen weinten. Sie waren unglücklich. Plötzlich könnte man sehen, dass von den Stiegen kamen einige SS-Offiziere an. Unter anderem auch der Lagerführer Schwarzhuber, der vorher doch denen versprochen hat, mit einem Ehrenwort eines SS-Offiziers, dass sie in Heidenbreck überstellt werden. Da habe ich gesehen, sie fingen an zu schreien, appellieren, Heidenbreck war eine Täuschung, wir waren belogen, wir wollen leben, wir wollen arbeiten, und guckten dabei im Gesicht den der SS-Henkern. Aber die waren ja wie nicht beteiligt, die haben nur zugeschaut, als plötzlich eine Menge ausbricht. Wahrscheinlich wollten sie sich stellen in die Augen gegen den Schergen, SS-Schergen, und denen sagen, wie sie belogen war. Aber in dem Moment kamen einige Posten und schlagen mit Knüppel zu, und einige waren auch verletzt in Auskleiderraum. Unter diesen Umständen kam es also unter außergewöhnlicher Härte, waren diese Menschen jetzt gezwungen, sich auszuziehen. Einige haben sich ausgezogen, aber nur die Kleine, eine ganz kleine Menge. Die Mehrheit, die haben nicht diesen Befehl befohlen. Und plötzlich hörte ich, wie ein Chor fing an, sich singen, ein Gesang verbreitete sich in den Auskleiderraum, und da fing an zu klingen, sie singen die tschechische Nationalhymne und die Hatikva. Es hat mich sehr berührt, also dieser Vorfall meiner Landsleuten. Und ich habe mich erfasst, dass mein Leben nicht mehr gewährt hat. Was soll ich mal leben, für was? Und da ging ich in die Gaskammer mit denen und entschieden zu sterben. Mit ihnen. Da kamen plötzlich zu mir einige Leute, die mich erkannt haben. Weil ich war einige Male mit meinen Freunden mit den Schlosser in Familienslager. Und plötzlich kam eine kleine Gruppe von Frauen zu mir, guckte mich an und sagte,
Du warst schon in den Gaskammer.
Und zwar sagte mir also, du willst ja sterben, aber das hat doch keinen Sinn. Dein Sterben wird nicht unseres Leben bringen. Das ist keine Tat. Du musst von hier raus, du musst ja noch berichten über dem, was wir leiden, was für ein Ungerecht uns geschehen ist.
That's how it ended with the first Czech family transport. And it was quite clear to me then that the resistance in the camp is not geared for an uprising, but for survival, for the survivors of the members of the resistance. I then decided to act what was called by the members of resistance as anarchic and individualistic activity, like an escape and leaving the community for which I'm responsible by that time. The decision to escape, in spite of the policy of the resistance movement at that time, was formed immediately, and I started to press on with the preparations for the escape together with my friend Wetzler, who was extremely important in this matter. And before I left, I spoke with Hugo Lenek, and Hugo Lenek was in command of the second of the resistance group in the second family transport. Yes, and I explained to him that from the resistance movement, they can explain nothing now. Expect nothing but bread. But when it comes to the dying, they should act on their own. As far as myself is concerned, I think that if I successfully manage to break out from the camp and bring the information to the right place in the right time, that this might be a help, that I might manage, if I succeed, to bring help from outside. And also it was a firm belief in me that all this was possible because either the victims who came to Auschwitz didn't know what is happening there, or if somebody had the knowledge outside, that the knowledge was... I would say that they didn't know, that's it. And I thought that if this will be made known by any means within Europe, and especially within Hungary, from where a million Jews were supposed to be transported to Auschwitz immediately in May, and I knew about that, that this might stir up the resistance outside and bring help from outside directly to Auschwitz, and thus the escape plans were finally formulated, and the escape took place on April 7th.
And this is the main and the deep reason why you decided to
suddenly
escape.
At that moment to press on with it. In other words, not to delay anything, but to escape as soon as possible. To inform the world.
About what was going on
right.
in
right.
Auschwitz.
Right.
Voilà. Alors, la première, je crois qu'on va devoir parler un peu de Philippe Müller,
oui.
Le premier témoin de ces deux extraits. Et je voudrais, avant d'entrer dans le détail de sa parole, peut-être, te poser une question autour du mot qui revient beaucoup dans le livre de Patagonie, que le mot incarnation. C'est un leitmotiv qui revient où tu dis que le témoin doit incarner. Il doit y avoir incarnation de la parole. Alors peut-être, dans un premier temps, tu pourrais parler de la personne même de Philippe Müller, dire quelques mots pour nous le présenter justement comme incarnation. Qu'est-ce qu'il incarnait justement ?
C'est pour moi encore aujourd'hui, on m'entend ? Pour moi encore aujourd'hui, cette scène avec Philippe Müller demeure... mystérieuse et énigmatique. Parce que voilà un homme, il est arrivé très tôt à Auschwitz, Philippe Müller, quand Birkenau n'existait pas encore. Il était tchèque et le deuxième protagoniste que vous avez vu tout à l'heure était non pas tchèque, mais slovaque. Rudolf Verba qui s'est évadé de Auschwitz. Les Tchèques et les Slovaques ont été parmi les premiers arrivés à Auschwitz, à cause de la proximité d'ailleurs de la Tchécoslovaquie. Bon, et Philipp Müller est au Sonderkommando depuis le printemps 1942. Dans Shoah, il y a d'autres scènes avec lui. Et c'est un homme que j'aime, que j'admire au plus haut point, et je le tiens pour un héros, un saint, un martyr. Et comme la plupart des hommes du Sonderkommando, au royaume de la mort, ils ont glorifié la vie, ils ont sanctifié la vie, véritablement. Et avant de te répondre, je voudrais vous lire un passage d'une déclaration de Philipp Müller dans le film, dans Shoah, et ce qui vous aidera à comprendre ce que j'entends par mystère et énigme. Bon, les gens du commando spécial savaient tous qu'ils dépendaient de l'arrivée de transport de juifs pour leur survie. Tant qu'il y avait des transports, ils avaient du travail, entre guillemets, et s'il n'y avait pas de transport, ils étaient liquidés. Aucun d'eux ne devait survivre, car on ne devait pas précisément porter témoignage. Bon, ça, on va revenir à ça là-dessus. Mais donc, Philipp Müller, cette scène se passe en mars 1944. Il est donc à Auschwitz depuis 2 ans, d'abord au camp originel de Auschwitz, les fameuses casernes, où il y a eu les premières chambres à gaz, et puis ensuite à Birkenau. Bon, à Birkenau, qui est la grande usine de mort, rationalisée, perfectionnée. Donc, il me dit ceci, et c'est dans le film. Le commando spécial vivait dans une situation extrême. Commando spécial, ce sont ceux qui assuraient la maintenance du camp. Chaque jour, dit-il dans le film, chaque jour, sous nos yeux, des milliers et des milliers d'innocents disparaissaient par la cheminée. Nous pouvions percevoir de nos propres yeux la signification profonde de l'être humain. Ils arrivent là, hommes, femmes, enfants, tous innocents. Non, pardon, ils arrivaient là, hommes, femmes, enfants, tous innocents, disparaissaient soudain, et le monde était muet. Nous nous sentions abandonnés du monde, de l'humanité. Et c'est précisément dans ces circonstances que nous comprenions au mieux ce que représentait la possibilité de survivre, car nous mesurions le prix infini de la vie humaine. Et nous étions convaincus que l'espoir demeure en l'homme aussi longtemps qu'il vit. Il ne faut jamais, tant qu'on vit, abdiquer l'espoir. Et c'est ainsi que nous avons lutté dans notre vie si dure, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, avec l'espoir que nous réussirions peut-être, contre tout espoir, à échapper à cet enfer. Bon, ça c'est une sorte de déclaration d'amour à la vie, d'hymne à la vie, et il le dit lui-même, il vivait au milieu des cadavres et des vivants changés en cendres dans les 2 ou 3 heures qui suivaient leur arrivée. Malgré cela, il continue de s'accrocher à la vie, hein, vouloir vivre magnifique, car il n'y a que la vie. Il n'y a rien d'autre. Un autre homme du commando spécial a écrit « On veut vivre parce qu'on vit, parce que tout le monde vit, il n'y a que la vie. » Il n'y a pas de transcendante là. Bon, et extraordinairement, au moment où arrivent les Juifs tchèques, il est témoin de leur entrée à coups de matraque, à coups de fouet, enfin dans la grande salle appelée le Auskleiderraum, le vestiaire qui ressemble à un centre international d'information avec des pancartes en toutes les langues. Et là, soudain, après 2 ans passés à Auschwitz, il craque complètement, il se brise, on le voit, et il veut mourir. Et il dit, c'est à mes compatriotes que cela arrivait. Auparavant, pendant les 2 ans qu'il avait passé là-bas, cela arrivait aussi à ses compatriotes, parce que cela arrivait à des Juifs et à personne d'autre. Mais là, soudain, mes compatriotes, c'est encore autre chose. Ce sont des Juifs tchèques. Et probablement quelque chose s'est passé. Il a réentendu leur langue, réentendu la langue maternelle, parce que jusque-là, il était contraint de parler en allemand. L'allemand, c'était la langue des tueurs que les gens du Sonderkommando devaient adopter. Et c'est à ce moment-là, c'est ce que j'appelle l'énigme, il dit « ma vie n'avait plus aucune valeur ». Est-ce qu'elle avait une valeur pendant les 2 années qui ont précédé? Sûrement elle en avait une, la preuve c'est ce que je viens de vous dire. Mais être soudain le témoin que cela arrivait à ses compatriotes le brise complètement. Et en même temps, les filles qui sont avec lui dans la chambre à gaz et qu'il connaît lui disent « tu dois rester en vie ». Car il a la possibilité de rester en vie tant que des convois arrivent. Tu dois rester en vie et témoigner de notre souffrance. Mais je ne suis pas sûr d'avoir répondu directement à ta question.
Non, mais on peut la reprendre autrement. D'une certaine façon, on voit effectivement qu'il y a une souffrance terrible au moment du témoignage, au moment où Philippe...
Terrible, Hubert... mais non, pardon, je vais répondre, puisque tu parles de l'incarnation. Alors je dirais que les larmes de Philippe Müller, quand il se brise, c'est l'incarnation. Même les larmes d'Abraham Bomba, le coiffeur de Treblinka, je crois que vous avez montré ça ici. Le coiffeur de Treblinka, quand il se brise, qu'il ne peut plus parler. Et c'est très intéressant parce que je viens de lui demander, mais dites-moi Abraham, je vous ai posé une question et vous n'avez pas répondu. Je vous ai demandé, qu'avez-vous pensé quand vous avez vu arriver dans la chambre à gaz toutes ces femmes nues et les enfants nus également. Et il me répond, « Oh, vous savez, monsieur, éprouver, ressentir là-bas, vivant jour et nuit au milieu des cadavres, c'était très difficile de ressentir, vous ne ressentiez rien, vous n'éprouviez rien. » Vous étiez, je m'en souviens bien parce que c'est moi qui ai fait les sous-titres, vous étiez mort au sentiment, mort à tout. Et c'est au moment précis où il me dit « Vous étiez mort au sentiment, mort à tout », il dit « Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à un de mes amis coiffeurs quand il a vu arriver sa femme et sa belle-sœur, je crois, dans la chambre à gaz. » Et soudain, il arrête, il ne peut plus parler. Le mort au sentiment, et c'est la vérité, le mort au sentiment se brise devant la caméra. Et je n'ai pas arrêté la caméra. Et je n'ai pas arrêté la caméra parce que, d'une part, j'avais pressenti au cours du tournage avec lui dans le salon de coiffure que quelque chose allait peut-être arriver, je n'en étais pas sûr, je ne savais pas quoi, je ne savais pas quand. Et j'ai regardé derrière le compteur de la caméra avec laquelle on tournait était une caméra 16 mm, il faut la recharger toutes les 11 minutes. Et j'ai vu qu'il restait encore 5 minutes de pellicule vierge, en un sens c'est beaucoup. Mais j'ai obéi à une sorte d'intuition et j'ai dit tout de suite, on coupe et on recharge immédiatement. On avait des magasins prêts. Et ça s'est fait très vite, il s'en est même pas aperçu. Mais quand il se brise, au moment précis où je n'aurais plus eu de film dans la caméra, qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Lui demander de recommencer, pleurer encore ? C'est pas du théâtre, réaliser un film pareil. C'est un travail périlleux, dangereux pour lui, pour moi, pour tout le monde. Et pourquoi je dis que c'est l'incarnation ? Parce que les larmes de Bomba sont, pour moi, sont précieuses comme du sang. C'est le sceau du vrai, the stamp of truth.
Si tu veux, je peux lire le passage du Lièvre où tu expliques cela. Tu écris « La caméra ne s'était pas arrêtée de tourner. Les larmes d'Abraham étaient pour moi précieuses comme du sang, le sceau du vrai, l'incarnation même. » Et tu ajoutes « Certains ont voulu voir, dans cette scène périlleuse, la manifestation de je ne sais quel sadisme en moi, alors que je la tiens au contraire pour le paradigme de la piété, qui ne consiste pas à se retirer sur la pointe des pieds face à la douleur, mais qui obéit d'abord à l'impératif catégorique de la recherche et de la transmission de la vérité. » Il me semble que ce passage est très important parce
Mais j'ajoute autre chose. J'ai dit, ça n'est pas ma forme de piété, me retirer. Oui. Je crois.
Ce qui est important...
Ma piété, elle est ailleurs.
Ce qui est peut-être important, c'est là de retrouver peut-être le thème de la transgression dont tu fais la définition de Shoah. Quand tu dis piété qui ne consiste pas à se retirer sur la pointe des pieds face à la douleur. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre l'incarnation dans le témoignage et cette transgression dont Shoah serait, en fait, la forme de représentation ?
Un lien entre quoi et quoi ?
Entre l'incarnation du témoin et cette forme de transgression, puisque certains parlent de sadisme, certains parlent de violence, de brutalité, de douleur. Est-ce qu'il n'y a pas là, dans l'incarnation, une forme de transgression ?
Je pense que pour beaucoup, Shoah est un film qui transgresse, parce qu'il faut, tout le monde est d'accord pour parler de ça, pour commémorer à tout va, mais le face-à-face avec le mal radical, les gens sont beaucoup moins d'accord. Je pense que d'une certaine façon, oui, un film comme Shoah transgresse. D'ailleurs, moi, j'ai vu des rabbins, après la première époque de Shoah, j'en parle dans mon livre, d'ailleurs, filer à toute vitesse, avec leur grand chapeau, se levant, disant « c'est épouvantable » et partant, ne revenant pas pour voir la deuxième époque de Shoah. Parce que le mal n'existe pas. Mais j'ai vu aussi des archevêques faire pareil. Il y a une relation étrange entre la foi et la vérité, ou une absence de relation, peut-être.
Peut-être un dernier point sur l'incarnation. Encore un passage de ton livre à propos d'un autre témoin de Shoah, qui est Michael Potchlebnik, où tu écris ceci. Tu parles d'ailleurs non pas de témoin, mais de revenant, pour désigner les protagonistes de Shoah, et on reviendra peut-être
oui,
tout à l'heure.
Oui, ça je peux expliquer pourquoi. Si ce n'est pas clair, il faut l'expliquer.
Oui, oui. Alors, tu écris ceci. Avec le premier « revenant », entre guillemets, Michael Potchlebnik, le problème ne se posait pas ainsi. Tout était dans son visage, merveilleux visage de sourire et de larmes, ce visage est le lieu même de la Shoah. Alors là, c'est une façon où l'incarnation, précisément, est totale, et où le visage et l'espace même de l'incarnation témoigne, précisément, parce qu'il est le lieu même de la Shoah, et non pas une parole relais, non pas un récit sûr.
Mais il ne parle presque pas, d'ailleurs.
C'est ça, il ne parle presque pas. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots sur ce visage ? Pourquoi ce visage est-il le lieu même de la Shoah ? Comment ?
C'est un très beau visage, bouleversant. Je l'ai connu à Tel Aviv. C'est un homme, c'est un survivant de Chelmno. Il a vu sa femme et ses enfants, il a été choisi pour accomplir ces tâches épouvantables d'ouvrir les portes des camions à gaz quand les camions arrivaient dans la forêt de Rouchov, et puis de sortir les corps. Et il a vu là sa femme, qui venait d'être gazée pendant dans le camion, sa femme et ses enfants. Et on le voit à deux reprises dans le film, je l'ai monté comme cela. Dans la première partie, tout ça, c'est au début de Shoah. C'est pour montrer les défis auxquels se heurte ce film et qu'il tente de relever le premier survivant de Chelmno, qui est le premier protagoniste qu'on voit dans le film, Simon Chrebny, qui chante sur la rivière. L'enfant chanteur dit « Je ne peux pas croire que je suis ici parce que je l'avais ramené avec moi là-bas. » On ne peut pas imaginer ça, on ne peut pas se représenter cela, ce qui s'est passé. Moi-même, je ne crois pas que je suis ici, en fait, etc. Et apparaît, après quelques minutes, le deuxième survivant, alors Michael Potchlebnik, celui dont je viens de vous parler, et lui ne dit pas, on ne peut pas se représenter cela. Il dit, il ne faut pas parler de cela. Il faut se taire. Et parler, c'est un peu transgresser. Et je lui dis, mais alors pourquoi le faites-vous quand même ? Il me dit, mais parce que vous m'interrogez, parce que vous me posez des questions. Et moi, on voit d'ailleurs cela à l'écran. C'est très physique, un film comme ça. On voit ma main lui toucher l'épaule, lui masser l'épaule, le coup, c'est à la fois un geste d'amitié absolue, de fraternité, mais d'accouchement en même temps. C'est une façon de le faire accoucher. Et je demande, à la fin de sa première apparition, parce qu'il rit tout le temps, il a une sorte pas un rire, un sourire. Sa bouche... très belle, il a un très beau visage. Il sourit après chacune des phrases très profondes qu'il prononce. Et je demande, moi, pas à lui directement, mais à l'interprète. Il parlait en yiddish et l'interprète est une interprète de yiddish. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'il sourit tout le temps ? Et elle lui demande, elle lui pose la question, il répond, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? C'est lui qui parle. Qu'il pleure, on est vivant et quand on vit, il vaut mieux sourire. Voilà ce qu'il dit. Et sa deuxième apparition dans le film, environ un quart d'heure plus tard, il raconte, je lui demande qu'est-ce qui s'est passé la première fois qu'il a ouvert les portes de son premier camion à gaz. Et là, ce souriant fond littéralement en larmes. Il se brise aussi. Il explique qu'il dit aux Allemands « Tuez-moi ». Et les Allemands lui disent « Non, non, tu as encore la force de travailler, on ne va pas te tuer tout de suite ». Et finalement, il s'est évadé avec un courage, un culot incroyable au bout de 3 mois à Chełmno. C'est-à-dire, il est arrivé à Chełmno en janvier 1941. Il s'est évadé en mars ou avril. Et donc, il a dû survivre en Pologne pendant toute la guerre. Mais il ne dit pas ça, il ne le raconte pas. Il ne dit pas un mot. C'est pourquoi je dis toujours que Shoah n'est pas un film sur la survie, sur les survivants, c'est un film sur les morts. Et les protagonistes de Shoah ne racontent jamais leur histoire personnelle. Ce sont tous des gens du commando spécial. Ils ne disent pas « je », pratiquement pas. Ils disent « nous » et ils sont les porte-parole des morts. Ils reviennent un peu d'au-delà du seuil du crématoire. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut les appeler des revenants et non pas des survivants. Cela donne lieu à des malentendus, d'ailleurs, plus que des malentendus, entre les survivants et moi, parce que les survivants ne sont pas dans Shoah. Shoah, c'est pas un film sur la survie. Ça ne veut pas dire que j'ignore que ce qu'ont traversé les survivants est épouvantable. Mais ils étaient dans une autre filière, ils n'étaient pas envoyés tout de suite à la chambre à gaz.
Oui, justement, ce mot on peut reprendre sur ce mot de revenant, si tu veux. Parce que ce qui me frappe, c'est que tous ces témoins juifs de Shoah ont quelque chose d'extraordinaire qui émane de leur visage, de leurs yeux, de leurs paroles, de leur corps même. On pourrait parler d'une sorte d'aura de ces témoins. Il me semble que leur aura, de revenant peut-être, leur appartient, mais elle appartient aussi à l'image cinématographique. Elle appartient aussi à la manière dont le film les a saisis. Les a saisis, les a pris. Et dans Le Lièvre de Patagonie, tu insistes beaucoup sur ton refus de la psychologie. Tu insistes à plusieurs reprises sur le refus de la psychologie du témoin, refus de la psychologie du mal, refus de vouloir comprendre le mal, aussi bien du bourreau, que de vouloir comprendre le phénomène de la victime psychologiquement. Et est-ce que ce n'est pas justement ça l'incarnation, n'est-ce pas, le refus justement de la psychologie ou de l'aventure individuelle, comme tu le disais ? À savoir que finalement, tous ces témoins sont dans l'oubli de soi, comme tu le dis, et peuvent à ce moment-là peut-être incarner d'autant plus d'être porte-parole.
Oui, ils sont dans l'oubli d'eux-mêmes, parce que il faut comprendre que se résoudre à témoigner dans un film, devant une caméra, devant une équipe de cinéma, et à dire ces choses épouvantables qu'ils ont vécues, C'est très difficile. Ils sont obligés pour le faire de payer le prix le plus haut, c'est-à-dire de revivre tout. La preuve, qu'est-ce que c'est que ces larmes, sinon une résurrection de la peine et de la douleur. Et c'est pourquoi il était pour moi très important. Il y a trois catégories de protagonistes dans Shoah. Il y a des revenants juifs. Il y a les tueurs. Et puis il y a les témoins polonais qui vivaient dans les villages qui se trouvaient tout autour des camps d'extermination, qui ont tout vu, tout entendu, tout senti. Ouais, l'odeur s'appuait à des kilomètres. Mais je me suis... Quand j'ai su quel film je devais faire, il m'a fallu du temps pour le comprendre, à savoir ce film sur la mort et pas sur la survie. Quand j'ai su cela, j'ai compris que si je voulais réussir à amener les revenants devant une caméra et leur faire dire l'impossible, car c'est bien de cela qu'il s'agissait, je devais savoir sur eux, avant de tourner, le plus de choses possibles. Bon. Avec Bomba, le coiffeur d'avant, celui-là, j'ai mis très très longtemps à le retrouver, mais j'ai passé 2 jours et une nuit avec lui dans une cabane des montagnes de l'État de New York, car il était coiffeur dans les sous-sols de la gare de Grand Central Station, et je n'avais ni caméra, ni magnétophone, ni rien, et je ne prenais même pas de notes, et je lui ai fait tout me dire, mais pas tout non plus, on ne fait jamais tout dire. Parce que la caméra n'était pas là. Il n'a pas fondu en larmes devant moi quand nous étions seuls à seuls. Puisqu'on parle de l'incarnation, la caméra est un outil de l'incarnation, ça c'est très clair. Et donc, avec Philippe Müller aussi, d'ailleurs, il a écrit un livre, il ne l'a pas écrit lui-même, mais il y a un livre de lui. Et quant à l'autre, Rudolf Verba, lui, il n'a pas écrit non plus, mais c'est un livre magnifique. Il explique comment il s'est évadé de Auschwitz. C'est un des grands héros de l'humanité. Il est mort il y a 2 ans. Des gens comme lui ne devraient jamais mourir. Il était professeur de pharmacologie à l'université de Vancouver. C'était un grand homme, dans tous les sens du terme. Mais là, je m'égare.
Non, non. Non, simplement, je voudrais peut-être revenir à Philippe Müller, justement, parce que ce qui est très frappant dans cette scène, c'est qu'il emploie 2 fois le mot « témoin ». Une première fois, lorsqu'il décrit les Juifs qui sont battus, qui descendent du camion, qui sont battus, il dit « Et posé là, j'étais le témoin de l'effroyable scène. » Et puis, il y a un second emploi du mot « témoin ». Enfin, vous avez vu le mot « témoin » apparaître dans les sous-titres. Et puis, il y a un second emploi du mot « témoin » qui est un autre emploi très différent. C'est quand, précisément, après être entrée dans la chambre à gaz, l'une des jeunes femmes tchèques, qui, elle, va mourir, qui, elle, va être gazée, se rapproche de lui et lui dit « Tu ne veux donc mourir, mais ça n'a aucun sens. Ta mort ne rendra pas la vie. Ce n'est pas un acte. Das ist keinen Tat », dit-elle, comme une sorte de phrase philosophique, où elle dit « Ça n'est pas un acte que de mourir. » Et elle dit « Tu dois témoigner de ta souffrance. » Et ce n'est pas le même mot « témoin » qui revient la seconde fois. Quand elle dit « Tu dois témoigner », à ce moment-là, eh bien, Philippe Müller est au centre d'un drame, justement, où il sort de la chambre à gaz, et en effet, ce drame, on en voit l'épilogue dans Shoah, puisqu'il témoigne. Alors, c'est ça qui est quand même très important, c'est la présence de l'autre. Il faut un autre pour qu'il y ait témoignage.
Il dit, j'ai été posté, il était exactement à la limite du vestiaire de déshabillage et de la chambre à gaz. C'était, vous aviez le vestiaire et la chambre à gaz perpendiculaires, aussi immenses l'une que l'autre, puisqu'il fallait comprimer 3000 personnes à la fois. Et il dit, posté là, j'ai été le témoin de l'épouvantable scène. Mais être le témoin d'une scène pareille, c'est pas comme être le témoin d'un accident de voiture. C'est tout à fait autre chose. Parce qu'il a été marqué à mort, et puis il ne faut pas oublier encore autre chose. C'est moi qui l'oublie, et pardonnez-moi. C'est que ce qui l'emporte et qui peut-être résout l'énigme dont je parlais tout à l'heure, c'est la manifestation extraordinaire de courage dont il est le témoin, à savoir en sang, sachant qu'il n'y a plus aucun espoir, il se met à chanter. Et il chante deux choses. Il chante l'hymne national tchèque, c'est son hymne, il était tchèque, c'est comme si on chantait la Marseillaise pour les Juifs français. Et puis la Hatikva, l'espoir, qui est l'hymne national israélien. Alors il y a la confluence des deux hymnes nationaux et chantés par ces hommes, ces femmes et ces enfants ensanglantés. Finalement, c'est... Non, je réponds moi-même, je comprends moi-même ce que je voulais dire tout à l'heure en disant que je ne comprenais pas. Je crois que c'est la première fois que je comprends. Je crois que le Collège de France m'inspire. C'est bouleversant, une scène pareille. Et ils veulent attaquer les gardiens. C'est arrivé souvent que des hommes ou des femmes se révoltent avant d'entrer dans la chambre à gaz, parce qu'ils comprenaient, on ne pouvait pas les tromper jusqu'au bout. C'était un mix de tromperie jusqu'à la fin et de violence. Plus on avançait vers la chambre à gaz, plus il y avait tromperie et plus il y avait violence. Parce qu'à un moment donné, le masque de la tromperie, si je puis dire, tombait et restait la violence nue. Il y a une scène affreuse qui s'est passée avec des adolescents. Ils étaient 500 ou 600 dans l'antécour du crématoire 2 de Birkenau. Ils comprennent qu'ils sont entourés de SS, ils comprennent qu'on va les tuer. Et ils courent en suppliant, etc. Et puis les autres leur donnent le choix entre la mort immédiate par les lance-flammes qu'ils avaient, ou alors aller se déshabiller tranquillement, si je puis dire, et entrer dans la chambre à gaz. Oui, je pense que... Parce qu'il était habitué à quoi, Philippe Müller ? Il était habitué à la non-révolte jusqu'au dernier moment. Les gens ne pouvaient rien faire. Et là, soudain, il y a cette conjonction de deux hymnes nationaux qui... C'était la première fois que ça lui arrivait en deux années là-bas, d'entendre ça.
Il y a aussi une chose qui est frappante lorsqu'on voit Shoah, c'est aussi que ces témoignages sont effectivement extrêmement difficiles à énoncer, qu'il faut bien quelqu'un pour les écouter, Il faut bien quelqu'un qui, justement, permette au témoignage d'avoir lieu. Et cette personne, c'est toi. Donc, tu es le dépositaire, tu es l'interlocuteur du témoin, car on l'a vu, ce témoignage ne peut pas se faire sans l'autre, ne peut pas se faire sans toi. Philippe Müller et les autres ne peuvent pas parler tout seuls, ne peuvent pas parler devant une caméra. Il faut quelqu'un qui, au fond, soit là pour porter leurs paroles et supporter leurs paroles. Alors, je voudrais parler de ton rôle en tant que celui qui enregistre, qui filme, qui regarde et qui écoute les témoignages. Et je voudrais une dernière fois faire une citation du livre de Patagonie, qui est la dernière page, ou les dernières pages. Tu dis « Le temps, un jour, et dans des circonstances dont je ne saurais rien, a pour moi interrompu son cours. Cette suspension du temps a été d'une rigueur implacable pendant les 12 années de la réalisation de Shoah. » Ou, dit autrement, le temps n'a jamais cessé de ne pas passer.
De ne pas passer.
Comment pourrait-on, s'il s'écoulait, travailler 12 ans à produire une œuvre ? Cette formulation, le temps n'a jamais cessé de ne pas passer, indique à la fois l'écoulement inexorable de ce qu'Emmanuel Kant appelait le sens interne et son interruption. Et bien qu'il se soit remis très lentement, convalescent à passer, j'ai toujours le plus grand mal à m'en persuader. Donc pendant tous ces 12 ans, justement, en tant que celui qui recueille le témoignage, qui l'enregistre, qui le monte, qui le construit, le temps s'est arrêté aussi pour toi.
Qui l'ait fait advenir. Qui l'ait fait se dire. Mais c'était quoi la question ?
Le temps s'est arrêté pour toi.
Je crois que le temps s'est arrêté. Il l'est toujours, d'une certaine façon. Oui. Ben, si le temps ne s'était pas arrêté, je ne vois pas comment on pourrait passer 12 années à produire une œuvre comme cela. Parce que dire 12 ans, c'est rien. Mais se retourner, regarder en arrière et se parler à soi-même et se dire, voilà, il y a 2 ans que tu travailles, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et tu n'as pas fini. Mais j'ai raconté des choses drôles dans le livre de Patagonie à ce propos. Mais il faut le lire, je ne vais pas les raconter.
Peut-être juste
poser une question.
Oui, vas-y.
Est-ce que vous-même, vous décririez, vous définiriez comme témoin de cette entreprise, puisque tout ce que vous nous dites là aujourd'hui, c'est vous qui témoignez de ce qu'est l'histoire du film et de ce qui a lieu autour du film et de ce sans quoi il n'y aurait pas de film.
Oui. Écoutez, témoin, je n'ose pas dire cela parce que. Et puis il y a même des formulations que je ne comprends pas très bien, le témoin des témoins, enfin, etc. Je n'ai jamais bien compris, je ne sais plus qui a utilisé.
Paul Celan. Quoi.
Oui, c'est Celan, mais ça je n'ai jamais bien compris. Non, mais je me suis efforcé en tous les cas d'aller le plus loin possible et de regarder en face. Je me suis comparé... Dans un texte qui a été publié par la Nouvelle Revue de Psychanalyse, un numéro sur le mal, je posais la question du pourquoi, et je disais ne pas comprendre a été ma loi d'airain pendant les 12 années de la réalisation du film. J'étais comme un cheval avec des œillères, sans regard latéral, ne regardant ni à droite ni à gauche, mais essayant de regarder en face le plus fixement possible ce que j'appelais le soleil noir de la Shoah. Et j'ajoutais que cet aveuglement était en un sens le mode le plus pur du regard, la clairvoyance même. Parce que ce qui m'a toujours frappé, c'est à quel point les gens ne veulent pas regarder en face, parce que c'est sûrement trop pénible, et se réfugie dans des frivolités ou dans des questions. Ça n'est pas un crime contre l'humanité, c'est un crime de l'humanité, etc. Enfin bon, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire beaucoup de choses, mais et de toute façon, si on pose la question au plus simple et au plus près, et si on demande pourquoi les Juifs ont-ils été tués, je trouve que la question même dévoile d'emblée son obscénité. Il y a plein de raisons, mais ces raisons, c'est peut-être des conditions nécessaires, mais pas suffisantes. Et alors je trouve que tous les gens cherchent à éviter la violence, précisément, à y échapper, et d'arriver par une sorte d'engendrement presque harmonieux à la mort. C'est pourquoi moi j'ai commencé mon film par la violence nue, et pas du tout par l'endoctrinement des jeunes nazis, par les jeunes allemands, par Hitler, tout ce qui est absolument vrai. La question n'est pas là, c'est pas du tout que je mets cela en doute. Mais en tout cas, c'est ma façon de voir les choses et de procéder. Mais en tout cas, si moi j'hésite à me dire témoin, je pense que Shoah, le film, et je ne sais pas ce qu'il en sera dans 100 ans, mais ça fait maintenant plus de 24 ans que le film est fait, et la première phrase du texte du déroulant qui explique la première image, c'est l'action commence de nos jours à Rennes-sur-Mer. L'action, je le prenais en deux sens, au sens racinien, par exemple. Dans les préfaces de ces pièces, Racine emploie souvent le mot action. Et puis action, actionne, c'était le mot nazi pour signifier les rafles et tout ça. Mais ce qui est important, c'est de nos jours. De nos jours, c'est en 1985 quand j'ai écrit cela, c'est en 1942 quand on tuait, c'est aujourd'hui, c'est chaque fois qu'on voit le film. Et c'est pourquoi je pense que le film a une sorte de cœur immortel et d'éternité et ne vieillit pas et ne peut pas vieillir. Le temps s'est arrêté aussi dans le film, pas seulement chez moi.
Peut-être qu'on peut terminer par une question aussi en revenant à une très belle phrase, un très beau propos de Vidal Naquet, qui est un historien justement, et qui permet peut-être de réconcilier un peu les choses, à savoir aussi bien la question de l'histoire, du discours historique, du témoignage et du temps, justement. Voilà ce qu'il écrit, Vidal Naquet, en conclusion d'un très beau texte sur Shoah. « Il m'est arrivé d'écrire avant Shoah qu'une des questions qui se posent aux historiens d'aujourd'hui était de faire entrer dans l'histoire l'enseignement, si je puis dire, de Marcel Proust. La recherche du temps perdu comme temps perdu et retrouvé tout à la fois. C'est ce qu'a réalisé Lanzmann dans ce film où pas un seul document ne nous est présenté, mais où tout repose sur les questions qu'il pose aujourd'hui à ses témoins et sur les réponses qu'ils lui font. Et je le sais bien, derrière chacune de ces questions, il y a toute l'historiographie de la Shoah que Lanzmann connaît aussi bien qu'un historien de métier. Alors ce paragraphe est très fort et très beau parce qu'il me semble qu'il réunit tout ce qu'on a dit au fond là, à savoir des questions qu'il pose aujourd'hui à ses témoins, la dimension du temps arrêté et retrouvé, et puis au fond que derrière cette dimension de l'action au sens racinien, comme tu disais, il y a en fait toute l'histoire et peut-être plus que l'histoire qu'un historien de métier pourrait montrer. Comment tu as reçu ce paragraphe de Vidal Naquet ?
Mais il n'est pas fini, le paragraphe, là, il me semble.
Entre le temps perdu et le temps retrouvé, il y a l'œuvre d'art.
Ben oui.
Et l'épreuve à laquelle Shoah soumet l'historien, c'est cette obligation où il se trouve d'être à la fois un savant, un artiste, sans quoi il perd irrémédiablement une fraction de cette vérité après laquelle il court.
Ben, ça m'a fait très plaisir, parce que Vidal Naquet et moi, on n'était pas très amis. C'est un anti-sioniste. Il était anti-sioniste fanatique, et moi, je passais pour un sioniste également fanatique. Ce qui est bien plus compliqué que ça, il suffit de lire le lièvre de Patagonie. Mais donc, la première fois qu'il a vu Shoah, il est venu vers moi à la sortie et il m'a dit « Je mets genoux en terre devant toi ». Bon, et puis il a toujours été parfait, le film l'a traversé, ou il s'est laissé traverser par le film. Mais attends, il y avait autre chose que je voulais dire, mais je... Oui, et les historiens. Vidal Naquet, il est très bien. Parce que c'est pas... Mais les historiens ont été saisis de panique quand Shoah est sorti. Absolument incroyable. Ils pensaient que leur discipline était ruinée à jamais. Et j'ai lu dans Les Annales, qui est une revue d'histoire, un article d'une certaine Madame Valency, elle est peut-être ici, Lucette Valency, qui citait Vidal Naquet précisément, et dans laquelle Vidal Naquet disait que trois personnes, à savoir Hildberg, Primo Levi et moi-même, en avaient fait plus et appris plus sur la Shoah, appris aux gens, enseigné plus que tous les historiens de métier. Et elle cite Vidal Naquet et la phrase qui vient immédiatement après, mais oublions ces noms. C'était hautement comique. Alors ensuite, elle dit que la force des témoignages, l'autorité des témoins, il a de l'autorité, Philippe Müller, l'autorité des témoins, comme eux étaient habitués à travailler sur documents, les historiens, que cela mettait, qu'ils se demandaient si cela mettait en danger leur discipline, et alors à ce moment-là, on a commencé à me canarder de mille côtés. Je me souviens du jubilé de Hildberg qui prenait sa retraite à Burlington, dans le Vermont. C'est à moi qu'on avait demandé de faire le discours, ce que j'avais accepté de faire. Il y avait un déjeuner avant les discours, il y avait quelques historiens, mais qui me regardaient vipérinement. Enfin, c'était drôle. Voilà.
On va s'arrêter là,
peut-être. Je crois qu'on va vous remercier beaucoup de venir nous voir.